Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Francis Cabrel, bonjour.
Bonjour Michel.
Votre première icône, c'est Bob Dylan, quand vous aviez 13 ans, Like a Rolling Stone.
Absolument, ouais. L'icône, ça l'est toujours en fait, mais c'est vrai que là, j'ai senti le grand changement dans ma vie. Quoi, en fait.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Entre la veille et le lendemain, c'était plus le même monde en fait.
Et vous n'étiez plus le même non plus ?
Et non, exactement. Donc, il s'est passé que cette chanson m'a frappé super fort quoi, dans la première écoute. Je me souviens parfaitement où c'était, à quel moment de la journée, avec qui. Et donc, c'est quand même super loin comme
c'était à Stafford chez vous ?
Non, c'était à Gers, on répétait dans un immeuble qu'on nous prêtait. On avait un groupe d'ados là, du lycée.
Et Ray Frank, c'est ça, non ?
Alors après, on est parti dans un groupe de balles qui s'appelait Ray Frank. Mais nous, entre nous, on s'appelait... Bon, on n'avait pas vraiment de nom, d'ailleurs. On
faisait des reprises. Il y a eu les Gaulois, enfin bon, bref.
Et après, il y a eu les Gaulois. On faisait des reprises et l'un d'entre nous est arrivé avec ce disque-là qu'il avait eu, je sais pas, d'Angleterre ou d'un copain. Parce que les disques voyageaient quand même assez mal à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui. On entend tout de suite. Et la chanson a démarré. Et là, c'était comme une révélation. Une illumination, même, en fait.
Et vous avez enchaîné comment ?
Et j'ai enchaîné en me renseignant sur le fameux personnage, en écoutant tout ce qu'il avait fait au préalable, parce qu'en fait, moi, j'arrivais un peu en cours de route. Il avait déjà fait 3 ou 4 albums, c'est sûr. Donc, j'ai tout réécouté ce qu'il avait fait précédemment, et puis j'ai embarqué dans sa discographie quoi, jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Dans les références, dans les icônes musicales, il y a Neil Young aussi, peut-être ?
Et Neil Young, en 70, lui, donc un peu plus tard, avec son disque Harvest, qui est, je pense, la bible de tous les guitaristes, en fait, acoustiques, dont je suis, c'est-à-dire les gens qui souhaitent s'accompagner à la guitare. Et là, il y a toute la bible de ce qu'il faut faire, en fait, tous les accents qu'il faut poser, tout ce qu'il faut travailler. C'est une leçon, en fait.
Comment avez-vous appris la guitare ?
Eh bien, en écoutant justement ces gens-là, en fait, je suis parti prendre un ou deux cours vers l'âge de 15 ou 16 ans aussi pour savoir comment on faisait avec la base, quoi, les accords, les positions, les... Après, j'ai tout mémorisé parce que je ne connais pas le solfège. Et ensuite, en écoutant effectivement des albums comme celui de Neil Young ou plus tard Leonard Cohen sur quelques passages d'accords.
Leonard Cohen fait aussi partie des
Leonard
icônes
Cohen,
de cette époque. Dans votre nouvel album qui sort, il y a une chanson sur votre père qui est magnifique.
Merci.
Est-ce que votre père est une icône pour vous ?
Ben oui, mon père est une icône, pas dans le sens musical, mais en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui me regarde toujours, effectivement, et à qui je demande son avis de temps en temps. T'aurais fait quoi, ça ou ça ? Il a une vie assez droite, en fait, assez complètement honnête, tout à fait pure et authentique, et de labeur quotidien. Alors, c'est pour ça que moi, je bosse tous les jours, même si ça se voit pas, même si quelquefois je dis que non. Mais en fait, je suis tous les jours à bosser sur une guitare, sur un cahier d'écriture. C'est l'exemple, en fait, que j'ai reçu de lui.
Ouais. La chanson est très belle, quoi. Vous voyez partir à l'usine, et c'est toujours ponctué par ce que disait Alain Souchon, qui était admiratif de cette chanson dans l'émission de la semaine dernière, c'est le « J'étais là ».
Et je le sais bien, j'étais là.
Ouais. Ouais,
mais ça, c'est effectivement des images très, très Alain Souchon, parce que moi, j'écoute beaucoup Alain Souchon, c'est une de mes icônes aussi, d'ailleurs. Et je trouve que ce langage qu'il a inventé fait que de temps en temps, il se place dans des contextes où on ne l'attend pas. Et moi, dans ma chanson, c'est vrai qu'on attend que je sois là puisque je parle de mon père. Mais j'insiste sur le fait, je le sais bien, puisque j'en suis le témoin numéro un.
T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. Toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir deux jardins à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent. Ça, je le sais bien, j'étais là. Ça en prenait du courage pour se lever à ces heures-là, bien avant le jour, et partir dans le pâle éclairage à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là.
Alors, il y a une chanson dédiée à Jacques Dutronc, que vous connaissez peu en fait.
Je l'ai croisé exactement 1 minute 30 avant de lui rendre un hommage à la télé, il y a peut-être 4 ou 5 ans en Corse. On s'est croisé dans les coulisses parce que je voulais absolument au moins le connaître quelques minutes avant de chanter pour lui. Et non, mais j'ai toujours admiré ce bonhomme. D'abord dans ses chansons, lorsque j'avais pareil 17, 18, 20, et puis voilà, toute sa collaboration avec Lanzmann. Et puis l'attitude, quoi, qui a été un modèle, le détachement, la dérision, les degrés, le deuxième, le troisième. Voilà, on fait quelque chose de sérieux, on s'applique à faire des chansons, mais bon, ce ne sont que des chansons, en fait.
Parler de ces 40 chats, il en a un peu moins aujourd'hui, je crois.
Je crois qu'il y en a moins, ouais. Et pour la rime, c'était mieux 140 chats.
Ouais, et juste envie de se marrer.
Ben oui, moi je pense que c'est ce qu'il a laissé, quoi. C'est autant se marrer, quoi, parce que bon, la vie est suffisamment déjà compliquée. Donc plutôt prendre ça sur la légèreté, si on peut, bien entendu. Bon, nos métiers nous le permettent, c'est sûr.
Comme moi, vous savez le nombre de navets qu'on voit sur les chaînes ordinaires. Leur grande utilité, c'est de nous éviter tout ce qui est somnifère. Ça, je crois savoir. Je crois le savoir. Ça, je crois savoir. Mes 140 chats ronronnent et font du gras, la tête entre les pattes. En regardant un peu, on trouve beaucoup mieux, à gauche comme à droite. Et ça, je crois savoir. Je crois le savoir. Ça, je crois savoir. Les soucis, les problèmes, n'en jetez plus, la cour est pleine. On n'a rien à déclarer, juste envie de se marrer. Les fadas, les tordus, la cour est pleine, n'en jetez plus. La vie, c'est une drôle d'histoire, ça je crois le savoir.
La légèreté, vous en parlez aussi dans le, enfin, une forme de légèreté sur des sujets graves comme les problèmes de climat. Il y a un mot qui est « il est trop tard, autant trouver ça drôle ». C'est une belle phrase aussi.
Ouais, il est trop tard, mais ça peut être drôle, mais bon, c'est que le début de la phrase, c'est qu'il est trop tard, et c'est malheureusement ce que je crois vrai, quoi. Je pense qu'il est trop tard pour s'inquiéter de tout le mal qu'on a fait, nous, notre génération. Et on laisse aux gens qui ont 14 ou 15 ans aujourd'hui, et donc à nos petits-enfants, tout un monde à purifier. Et on est quand même grandement responsable. Enfin, moi, je m'estime responsable, en tout cas, de voilà, tout ce foutoir qu'on leur laissait sur les bras.
Devant le peu qu'il reste de banquise, de respirer, nos chances se réduisent. Notre climat se dérègle et s'affole. Je sais pourquoi la terre se réchauffe, c'est quand t'as sur toi de moins en moins d'étoffe. Et qu'une bretelle tombe de ton épaule, et là, les glaces glissent et fondent jusqu'au pôle. Nos déjeuners aux particules fines, dans les fumées de l'Inde ou de la Chine, sous le ciel noir qui descend jusqu'au sol. Partout ça cuit, ça grille et ça déboise. Je sais ce qui fait déborder le vase. C'est quand doucement tes pudeurs s'envolent. Et là les glaces glissent et fondent jusqu'au pôle. Tous accusés d'agresser la nature. Chacun son train, son avion, sa voiture. Jusqu'au lapin et sa lampe à pétrole. S'il est trop tard, autant trouver ça drôle, très drôle.
Les autres icônes qu'on peut trouver qui vous concernent dans d'autres domaines que la musique, en littérature, en peinture?
En littérature, je dirais Balzac, qui est, c'est pareil, quelqu'un du labeur. C'est un mec qui quotidiennement a été à faire des centaines et des centaines de pages, donc ça, j'admire déjà ça. Et puis, bien sûr, tous les personnages qu'il a créés, tout ce siècle qu'il a décrit, j'avoue que je relis très, très souvent et j'aime beaucoup. Il y a des entrées de romans comme ça qui vous emportent. Et après, on peut plus s'en détacher. Comme ça, je trouve ça très, très admirable.
C'est venu très tôt, ce goût de l'écriture ?
Non, c'est pas venu très tôt. C'est même venu très tard, d'ailleurs, parce que j'avais fait déjà deux albums. Et donc, j'avais sorti « Je l'aime à mourir ». Et alors, je faisais des entrevues avec des journalistes qui me disaient « Mais alors, vous lisez quoi ?» Et je me souviens très bien que je ne lisais pas et que j'avais un peu honte de l'avouer. Et donc après, pour me dédouaner de tout ça, pour rattraper le temps que j'avais perdu, donc, j'aimais pas la lecture. Donc c'est pour ça que j'admets que les gosses de 15 ou 16 ans soient rechignent un peu à lire, parce que j'étais un peu comme ça, quoi. Et après, j'ai rattrapé le temps perdu. J'ai beaucoup, beaucoup lu, et notamment les classiques, enfin ceux du 19e en tout cas, qui m'ont... C'est pour ça que mes chansons sont assez classiques quand même.
Comment écrivez-vous Comment ça se passe quand il y a une feuille blanche, comment ça se passe?
Alors j'ai des feuilles blanches, enfin, elles sont toutes dans un cahier, donc je vois que la couverture, je ne vois pas qu'il y a autant de feuilles blanches, heureusement. Et puis, je joue de la guitare donc, de façon quotidienne, et il arrive souvent qu'il y ait des petites mélodies qui surgissent.
C'est la mélodie qui fait venir le texte?
C'est la mélodie qui déclenche quelque chose.
Ouais. Et comment décide-t-on de la première note? C'est toujours une question que je me pose sur une chanson.
Moi, je crois qu'on ne décide pas. Elle arrive comme ça. C'est un peu... Il faut l'accepter, quoi. En fait, elle n'est jamais seule. Elles sont toujours 4 ou 5 ou 6 ou 10 ou 15. Et bon, ça fait un petit bloc. Et généralement, je n'y touche pas. Je me dis bon, que si le hasard a fait qu'elles sont tombées comme ça. Donc, je travaille après à les accompagner, à faire quelque chose de 30 lignes à peu près, mais... Les premières notes, elles arrivent, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, et je ne cherche pas.
Ouais. Vous astreignez chaque jour à écrire ou c'est selon?
Non, j'écris assez peu en fait, mais lorsque je m'y mets, je bosse très très dur. Sinon, je joue tous les jours d'un instrument, effectivement, guitare, piano. Mais l'écriture, c'est quand j'ai un bon sujet en fait. Donc, je suis tous les jours en train de me creuser la tête à chercher un sujet, mais c'est pas une table de travail. Ça peut être dans un train... Bon, avant, il y avait des restaurants, on entendait des conversations comme ça, l'oreille tendue, des fois, on entend une phrase qui a
un
intérêt, oui, ouais. En lisant des journaux. Et ensuite, une fois que j'ai cette fameuse phrase, là, je m'assois à ma table, et là, ça peut être assez long, plusieurs semaines, pour essayer de finir le sujet, quoi.
En dehors de Balzac et des classiques auxquels vous avez fait référence, est-ce qu'il y a des auteurs contemporains qui sont des références pour vous, voire des icônes?
Dans la littérature,
ouais.
Oui, en français, oui, je lis, j'adore un jeune mec qui s'appelle Alexis Génie, qui a eu un concours avec l'art français de la guerre et qui a depuis écrit deux bouquins formidables, Jean Echenoz, Jean Rouault, Fred Vargas,
ouais.
Voilà, Jean Tellet récemment, j'aime bien tous ces gens-là. Ou de Jean, en fait, qui se prénomme Jean.
Ouais. Et dans la peinture?
Et dans la peinture, je suis aussi classique, genre Camille Pissarro, le fin 19e, début 20e. Voilà, je cours les musées chaque fois qu'il y a des impressionnistes.
Comment vivez-vous cette période?
Assez mal, en fait, parce que je m'ennuie dans ces confinements. Donc voilà, sinon, plutôt bien physiquement. J'ai eu la chance d'échapper au virus pour l'instant, mais enfin, je trouve que cette réclusion là, quand même assez monotone, donc je m'ennuie. Moi, j'aime bien rencontrer des gens, sortir. Même dans la campagne, il y a beaucoup même dans un village, il y a beaucoup d'actions associatives ou autres dont je fais partie. Et là, tout est éteint, quoi. Plus d'école de musique, plus de théâtre, plus de réunions avec les musiciens, c'est compliqué aussi, donc bon, un peu monotone.
Astafor est quelque chose d'important dans votre vie, c'est votre commune, vous avez été conseiller municipal, vous avez été très ancré là-bas avec toute votre famille. Est-ce qu'on peut parler d'icône à Stafford?
Ben oui, fatalement, puisque effectivement j'y suis pratiquement né, puisque la maternité était à Agen, ça fait 18 km. Et donc j'ai fait les 18 km, j'avais 8 jours, et depuis l'âge de 8 jours, je suis à Stafford. Donc ça fait quand même pas mal. J'ai vécu une douzaine d'années à Paris au début de mon métier de chanteur, mais en fait je suis toujours retourné, et j'y vis là de façon très très... Là, maintenant, c'est très affirmé. Je suis vraiment de là. J'en partirai pas, quoi.
Vous revenez sur scène dès la fin du confinement, même du 17 au 28 décembre et du 13 au 18 janvier aux Folies Bergères.
Oui. C'est une salle que j'avais connue en allant voir des spectacles, notamment de mon ami Roger Louré il y a très longtemps. Je trouvais que c'était ça, le rococo, je sais pas, avec une âme, en fait, et... Ça va correspondre à ce qu'on fait avec les musiciens là, et j'ai trois choristes aussi sur scène, et c'est quand même assez club, quoi. C'est pas du grand spectacle, il n'y a pas des effets, c'est juste de la musique, des chansons.
Et comment ça va se passer à partir du 15 décembre? La salle peut être pleine ou...
La salle ne peut pas être pleine, on a loué que 1000 places par soir et tout le monde sera masqué, donc 1000 places sur 1500 possibles, ça reste des sièges
D'accord.
Vacant, et donc on rentre dans le cadre législatif autorisé.
Vous êtes toujours resté quelqu'un de réservé, et malgré tout l'immense succès que vous connaissez, comment ça s'explique ?
Alors, est-ce que l'un n'explique pas l'autre ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis réservé que les gens aimaient mes chansons ? En tout cas, moi, j'ai toujours essayé de faire connaître mes chansons sans trop m'avancer moi-même. C'est-à-dire que voilà, le minimum pour dire, voilà, j'ai fini, elles sont là, elles sont prêtes. Et puis après, je m'en retourne dans ma campagne lointaine. Donc, je n'ai pas trop exposé ma vie non plus, ni familiale, ni autre. En fait, non, je ne l'explique pas trop, mais je pense que les gens sont un peu comme ça aussi, de nature. Et
les deux artistes les plus réservés que je connaisse, c'est vous et Jacques Dutronc.
Ah bon, voilà.
Donc si un jour vous rencontrez...
Il va falloir quelqu'un au milieu qui fasse la conversation, hein, pour une tierce personne.
Ah, je suis partant.
Ouais, d'accord.
Merci beaucoup, Francis Cabrel. Merci.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.